Le rouge et le noir, chapitre 44. Pensée d'une jeune fille. Que de perplexités, que de nuits passées sans sommeil. Grand Dieu, vais-je me rendre méprisable? Il me méprisera lui-même. Mais il part, il s'éloigne. Alfred de Musset. Ce n'est point sans combat que Mathilde avait écrit. Quel qu'eût été le commencement de son intérêt pour Julien, bientôt il domina l'orgueil qui, depuis qu'elle se connaissait, régnait seul dans son cœur. Cette âme, haute et froide, était emportée pour la première fois par un sentiment passionné. Mais s'il dominait l'orgueil, il était encore fidèle aux habitudes de l'orgueil. 2 mois de combats et de sensations nouvelles renouvelèrent, pour ainsi dire, tout son être moral. Mathilde croyait voir le bonheur. Cette vue toute puissante sur les âmes courageuses, liées à un esprit supérieur, eut à lutter longuement contre la dignité et tous les sentiments de devoir vulgaires. Un jour, elle entra chez sa mère dès 7 heures du matin, la priant de lui permettre de se réfugier à Villequier. La marquise ne daigna pas même lui répondre, et lui conseilla d'aller se remettre au lit. Ce fut le dernier effort de la sagesse vulgaire et de la déférence aux idées reçues. La crainte de mal faire et de heurter les idées tenues pour sacrées par les Quélus, les Deluse, les Croisenois, avait assez peu d'empire sur son âme. De tels êtres ne lui semblaient pas faits pour la comprendre. Elle les eût consultés s'il eût été question d'acheter une calèche ou une terre. Sa véritable terreur était que Julien ne fût mécontent d'elle. Peut-être aussi n'a-t-il que les apparences d'un homme supérieur. Elle abhorrait le manque de caractère. C'était sa seule objection contre les beaux jeunes gens qui l'entouraient. Plus il plaisantait avec grâce tout ce qui s'écarte de la mode, ou la suit mal, croyant la suivre, plus il se perdait à ses yeux. Ils étaient braves, et voilà tout. Et encore, comment brave, se disait-elle. En duel? Mais le duel n'est plus qu'une cérémonie, tout en est su d'avance, même ce que l'on doit dire en tombant. Étendu sur le gazon et la main sur le cœur, il faut un pardon généreux pour l'adversaire et un mot pour une belle souvent imaginaire, ou bien qui va au bal le jour de votre mort de peur d'exciter des soupçons. On brave le danger à la tête d'un escadron tout brillant d'acier. Mais le danger solitaire, singulier, imprévu, vraiment laid. Hélas, se disait Mathilde, c'était à la cour de Henri III que l'on trouvait des hommes grands par le caractère comme par la naissance. Ah, si Julien avait servi à Jarnac ou à Moncontour, je n'aurais plus de doute. En ces temps de vigueur et de force, les Français n'étaient pas des poupées. Le jour de la bataille était presque celui des moindres perplexités. Leur vie n'était pas emprisonnée comme une momie d'Égypte, sous une enveloppe toujours commune à tous, toujours la même. Oui, ajoutait-elle, il y avait plus de vrai courage à se retirer seul à 11 heures du soir, en sortant de l'hôtel de Soissons, habité par Catherine de Médicis, qu'aujourd'hui à courir à Alger. La vie d'un homme était une suite de hasards. Maintenant, la civilisation a chassé le hasard. Plus d'imprévus. S'il paraît dans les idées, il n'est pas assez d'épigrammes pour lui. S'il paraît dans les événements, aucune lâcheté n'est au-dessus de notre peur. Quelque folie que nous fasse faire la peur, elle est excusée. Cycle dégénéré et ennuyeux. Qu'aurait dit Boniface de la Mole si, levant hors de la tombe sa tête coupée, il eût vu, en 1793, 17 de ses descendants se laisser prendre comme des moutons pour être guillotinés 2 jours après? La mort était certaine, mais il eût été de mauvais ton de se défendre et de tuer au moins un Jacobin ou deux. Ah! Dans les temps héroïques de la France, au siècle de Boniface de la Mole, Julien eût été le chef d'escadron, et mon frère, le jeune prêtre, aux mœurs convenables, avec la sagesse dans les yeux et la raison à la bouche. Quelques mois auparavant, Mathilde désespérait de rencontrer un être un peu différent du patron commun. Elle avait trouvé quelque bonheur en se permettant d'écrire à quelques jeunes gens de la société. Cette hardiesse si inconvenante, si imprudente chez une jeune fille, pouvait la déshonorer aux yeux de monsieur de Croisenois, du duc de Chaulnes, son grand-père, et de tout l'hôtel de Chaulnes, qui, voyant se rompre le mariage projeté, aurait voulu savoir pourquoi. En ce temps-là, les jours où elle avait écrit une de ses lettres, Mathilde ne pouvait dormir. Mais ses lettres n'étaient que des réponses. Ici, elle osait dire qu'elle aimait. Elle écrivait « la première ». Quel mot terrible ! À un homme placé dans les derniers rangs de la société. Cette circonstance assurait, en cas de découverte, un déshonneur éternel. Laquelle des femmes venant chez sa mère eût osé prendre son parti ? Quelle phrase eût-on pu leur donner à répéter pour amortir le coup de l'affreux mépris des salons ? Et encore, parler était affreux, mais écrire ! « Il est des choses qu'on n'écrit pas !» s'écriait Napoléon, apprenant la capitulation de Baylen. Et si c'était Julien qui lui avait conté ce mot, comme lui faisant d'avance une leçon? Mais tout cela n'était rien encore. L'angoisse de Mathilde avait d'autres causes. Oubliant l'effet horrible sur la société, la tâche ineffaçable et toute pleine de mépris, car elle outrageait sa caste, Mathilde allait écrire à un être d'une bien autre nature que les Croisenois, les Deluse, les Quélus. La profondeur, l'inconnu du caractère de Julien, eussent effrayé, même en nouant avec lui une relation ordinaire. Et elle allait en faire son amant, peut-être son maître. Quelles ne seront pas ses prétentions, si jamais il peut tout sur moi? Eh bien, je me dirais comme Médée, au milieu de tant de périls, il me reste, moi. Julien n'avait nulle vénération pour la noblesse du sang, croyait-elle. Bien plus, peut-être, il n'avait nul amour pour elle. Dans ces derniers moments de doute affreux, se présentèrent les idées d'orgueil féminin. « Tout doit être singulier dans le sort d'une fille comme moi, » s'écria Mathilde impatientée. Alors l'orgueil qu'on lui avait inspiré dès le berceau se battait contre la vertu. Ce fut dans cet instant que le départ de Julien vint tout précipiter. De tels caractères sont heureusement fort rares. Le soir, fort tard, Julien eut la malice de faire descendre une malle très pesante chez le portier. Il appela pour la transporter le valet de pied qui faisait la cour à la femme de chambre de Mademoiselle de la Mole. Cette manœuvre peut n'avoir aucun résultat, se dit-il, mais si elle réussit, elle me croit partie. Il s'endormit fort gai sur cette plaisanterie. Mathilde ne ferma pas l'œil. Le lendemain, de fort grand matin, Julien sortit de l'hôtel sans être aperçu, mais il rentra avant 8 heures. À peine était-il dans la bibliothèque que Mademoiselle de la Mole parut sur la porte. Il lui remit sa réponse. Il pensait qu'il était de son devoir de lui parler. Rien n'était plus commode, du moins. Mais Mademoiselle de la Mole ne voulut pas l'écouter et disparut. Julien en fut charmé. Il ne savait que lui dire. Si tout ceci n'est pas un jeu convenu avec le comte Norbert, il est clair que ce sont mes regards pleins de froideur qui ont allumé l'amour baroque que cette fille de si haute naissance s'avise d'avoir pour moi. Je serais un peu plus sot qu'il ne convient si jamais je me laissais entraîner à avoir du goût pour cette grande poupée blonde. » Ce raisonnement le laissa plus froid et plus calculant qu'il n'avait jamais été. « Dans la bataille qui se prépare, » ajouta-t-il, « l'orgueil de la naissance sera comme une colline élevée, formant position militaire entre elle et moi. C'est là-dessus qu'il faut manœuvrer. J'ai fort mal fait de rester à Paris. Cette remise de mon départ m'avilie et m'expose, si tout ceci n'est qu'un jeu. Quel danger y avait-il à partir? Je me moquais d'eux s'ils se moquent de moi. Si son intérêt pour moi a quelque réalité, Je centuplais cet intérêt. La lettre de Mademoiselle de la Mole avait donné à Julien une jouissance de vanité si vive que, tout en riant de ce qui lui arrivait, il avait oublié de songer sérieusement à la convenance du départ. C'était une fatalité de son caractère d'être extrêmement sensible à ses fautes. Il était fort contrarié de celle-ci, et ne songeait presque plus à la victoire incroyable qui avait précédé ce petit échec, lorsque, vers les 9 heures, Mademoiselle de la Mole parut sur le seuil de la porte de la bibliothèque, lui jeta une lettre et s'enfuit. « Il paraît que ceci va être le roman par lettre, » dit-il en relevant celle-ci. « L'ennemi fait un faux mouvement. Moi, je vais donner la froideur et la vertu. » On lui demandait une réponse décisive avec une hauteur qui augmenta sa gaieté intérieure. Il se donna le plaisir de mystifier, pendant 2 pages, les personnes qui voudraient se moquer de lui. Et ce fut encore par une plaisanterie qu'il annonça, vers la fin de sa réponse, son départ décidé pour le lendemain matin. Cette lettre terminée, « Le jardin va me servir pour la remettre, » pensa-t-il, et il y alla. Il regardait la fenêtre de la chambre de Mademoiselle de la Mole. Elle était au premier étage, à côté de l'appartement de sa mère, mais il y avait un grand entresol. Ce premier était tellement élevé qu'en se promenant sous l'allée de tilleuls, sa lettre à la main, Julien ne pouvait être aperçu de la fenêtre de Mademoiselle de la Mole. La voûte formée par les tilleuls, fort bien taillée, interceptait la vue. « Mais quoi ? » se dit Julien avec humeur. « Encore une imprudence. Si l'on a entrepris de se moquer de moi, me faire voir une lettre à la main, c'est servir mes ennemis. » La chambre de Norbert était précisément au-dessus de celle de sa sœur, et si Julien sortait de la voûte formée par les branches taillées des tilleuls, le comte et ses amis pouvaient suivre tous ses mouvements. Mademoiselle de la Mole parut derrière sa vitre. Il montra sa lettre à demi. Elle baissa la tête. Aussitôt, Julien remonta chez lui en courant et rencontra, par hasard, dans le grand escalier, la belle Mathilde, qui saisit sa lettre avec une aisance parfaite et des yeux riants. Que de passion il y avait dans les yeux de cette pauvre madame de Rênal, se dit Julia, quand, même après 6 mois de relations intimes, elle osait recevoir une lettre de moi. De sa vie, je crois, elle ne m'a regardé avec des yeux riants. Il ne s'exprima pas aussi nettement le reste de sa réponse. Avait-il honte de la futilité des motifs? Mais aussi, quelle différence, ajoutait sa pensée, dans l'élégance de la robe du matin, dans l'élégance de la tournure. En apercevant Mademoiselle de la Mole à 30 pas de distance, un homme de goût devinerait le rang qu'elle occupe dans la société. Voilà ce qu'on peut appeler un mérite explicite. Tout en plaisantant, Julien ne s'avouait pas encore toute sa pensée. Madame de Rênal n'avait pas de marquis de Croisenois à lui sacrifier. Il n'avait pour rival que cet ignoble sous-préfet, M. Charcot, qui se faisait appeler de Maugiron parce qu'il n'y a plus de Maugiron. À 5 heures, Julien reçut une 3e lettre. Elle lui fut lancée de la porte de la bibliothèque. Mademoiselle de la Mole s'enfuit encore. « Quelle manie d'écrire !» se dit-il en riant, « quand on peut se parler si commodément. L'ennemi veut avoir de mes lettres, c'est clair, et plusieurs. » Il ne se hâtait point d'ouvrir celle-ci. « Encore des phrases élégantes, » pensait-il. Mais il pâlit en lisant. Il n'y avait que 8 lignes. « J'ai besoin de vous parler, il faut que je vous parle ce soir. » Au moment où 1 heure après minuit sonnera, trouvez-vous dans le jardin. Prenez la grande échelle du jardinier auprès du puits, placez-la contre ma fenêtre et montez chez moi. Il fait clair de lune, n'importe. Chapitre 45. Est-ce un complot? Ah, que l'intervalle est cruel entre un grand projet conçu et son exécution. Que de vaines terreurs, que d'irrésolution. Il s'agit de la vie. il s'agit de bien plus, de l'honneur. Schiller. Ceci devient sérieux, pensa Julien, et un peu trop clair, ajouta-t-il après avoir pensé. Quoi ? Cette belle demoiselle peut me parler dans la bibliothèque avec une liberté qui, grâce à Dieu, est entière ? Le marquis, dans la peur qu'il a que je ne lui montre des comptes, n'y vient jamais. Quoi ? Monsieur de La Mole et le comte Norbert, les seules personnes qui entrent ici, sont absents presque toute la journée. On peut facilement observer le moment de leur rentrée à l'hôtel. Et la sublime Mathilde, pour la main de laquelle un prince souverain ne serait pas trop noble, veut que je commette une imprudence abominable. C'est clair, on veut me perdre, ou se moquer de moi, tout au moins. D'abord, on a voulu me perdre avec mes lettres. Elles se trouvent prudentes. Eh bien, il leur faut une action plus claire que le jour. Ces jolis petits messieurs me croient aussi trop bête ou trop fat. Diable ! Par le plus beau clair de lune du monde, monter ainsi par une échelle à un premier étage de 25 pieds d'élévation, on aura le temps de me voir, même des hôtels voisins. Je serai beau sur mon échelle. Julien monta chez lui et se mit à faire sa malle en sifflant. Il était résolu à partir et à ne pas même répondre. Mais cette sage résolution ne lui donnait pas la paix du cœur. Si par hasard, se dit-il tout à coup, sa malle fermée, Mathilde était de bonne foi. Alors, moi je joue, à ses yeux, le rôle d'un lâche parfait. Je n'ai point de naissance, moi, il me faut de grandes qualités, argent comptant, sans supposition complaisante, bien prouvé par des actions parlantes. Il fut un quart d'heure à réfléchir. À quoi bon le nier ? Dit-il enfin. Je serai un lâche à ses yeux. Je perds non seulement la personne la plus brillante de la haute société, ainsi qu'ils disaient tous au bal de monsieur le duc de Retz, mais encore le divin plaisir de me voir sacrifier le marquis de Croisenois, le fils d'un duc, et qui sera duc lui-même. Un jeune homme charmant qui a toutes les qualités qui me manquent. Esprit d'à propos, naissance, fortune. Ce remords va me poursuivre toute ma vie. Non pour elle. Il est temps de maîtresse. Mais il n'est qu'un honneur, dit le vieux Don Diègue. Et ici, clairement et nettement, je recule devant le premier péril qui m'est offert. Car ce duel avec monsieur de Beauvoisis se présentait comme une plaisanterie. Ceci est tout différent. Je puis être tiré au blanc par un domestique, mais c'est le moindre danger. Je puis être déshonoré. Ceci devient sérieux, mon garçon, ajouta-t-il avec une gaieté et un accent gascon. Il y va de l'honneur. Jamais un pauvre diable, jeté aussi bas que moi par le hasard, ne retrouvera une telle occasion. J'aurai des bonnes fortunes, mais subalternes. Il réfléchit longtemps. Il se promenait à pas précipités, s'arrêtant tout court de temps à autre. On avait déposé dans sa chambre un magnifique buste en marbre du cardinal Richelieu qui, malgré lui, attirait ses regards. Ce buste avait l'air de le regarder d'une façon sévère et comme lui reprochant le manque de cette audace qui doit être si naturelle au caractère français. « De ton temps, grand homme, aurais-je hésité ?»« Au pire, se dit enfin Julien, supposons que tout ceci soit un piège. » Il est bien noir et bien compromettant pour une jeune fille. On sait que je ne suis pas homme à me taire. Il faudra donc me tuer. Cela a été bon en 1574, du temps de Boniface de La Mole, mais jamais celui d'aujourd'hui n'oserait. Ces gens-là ne sont plus les mêmes. Mademoiselle de La Mole est si enviée. 400 salons retentiraient demain de sa honte, et avec quel plaisir! Les domestiques jasent, entre eux, des préférences marquées dont je suis l'objet. Je le sais, je les ai entendues. D'un autre côté, ces lettres, ils peuvent croire que je les ai sur moi. Surpris dans sa chambre, on me les enlève. J'aurai affaire à 2, 3, 4 hommes, que sais-je. Mais ces hommes, où les prendront-ils? Où trouver des subalternes discrets à Paris? La justice leur fait peur. Parbleu, les Quélus, les Croisenois, les Deluse eux-mêmes. Ce moment et la sotte figure que je ferai au milieu d'eux sera ce qui les aura séduits. Gare le sort d'Abélard, monsieur le secrétaire. Eh bien, parbleu, messieurs, vous porterez de mes marques. Je frapperai à la figure comme les soldats de César à Pharsale. Quant aux lettres, je puis les mettre en lieu sûr. Julien fit des copies des deux dernières, les cacha dans un volume du beau Voltaire de la bibliothèque et porta lui-même les originaux à la poste. Quand il fut de retour, « Dans quelle folie je vais me jeter !» se dit-il avec surprise et terreur. Il avait été un quart d'heure sans regarder en face son action de la nuit prochaine. « Mais si je refuse, je me méprise moi-même dans la suite. Toute la vie, cette action sera un grand sujet de doute, et pour moi, un tel doute est le plus cuisant des malheurs. Ne l'ai-je pas éprouvé pour l'amanda-manda ? Je crois que je me pardonnerai plus aisément un crime bien clair. Une fois avoué, je cesserai d'y penser. Quoi ? J'aurais été en rivalité avec un homme portant un des plus beaux noms de France, et je me serais moi-même, de gaieté de cœur, déclaré son inférieur. Au fond, il y a de la lâcheté à ne pas y aller. Ce mot décide tout, s'écria Julien en se levant. D'ailleurs, elle est bien jolie. Si ceci n'est pas une trahison, quelle folie elle fait pour moi. Si c'est une mystification, parbleu, messieurs, il ne tient qu'à moi de rendre la plaisanterie sérieuse, et ainsi ferai-je. Mais s'il m'attache les bras au moment de l'entrée dans la chambre, ils peuvent avoir placé quelque machine ingénieuse. C'est comme un duel, se dit-il en riant. Il y a parade à tout, dit mon maître d'armes. Mais le bon Dieu qui veut qu'on en finisse fait que l'un des deux oublie de parer. Du reste, voici de quoi leur répondre. Il tirait ses pistolets de poche, et quoique la morse fût fulminante, il la renouvela. Il y avait encore bien des heures à attendre pour faire quelque chose. Julien écrivit à Fouquet. « Mon ami, n'ouvre la lettre si incluse qu'en cas d'accident. » Si tu entends dire que quelque chose d'étrange m'est arrivé. Alors, efface les noms propres du manuscrit que je t'envoie et fais-en 8 copies que tu enverras aux journaux de Marseille, Bordeaux, Lyon, Bruxelles, etc. 10 jours plus tard, fais imprimer ce manuscrit. Envoie le premier exemplaire à monsieur le marquis de La Mole. Et 15 jours après, jette les autres exemplaires de nuit dans les rues de Verrières. Ce petit mémoire justificatif arrangé en forme de conte que Fouquet ne devait ouvrir qu'en cas d'accident, Julien le fit aussi peu compromettant que possible pour mademoiselle de La Mole. Mais enfin, il peignait fort exactement sa position. Julien achevait de fermer son paquet lorsque la cloche du dîner sonna. Elle fit battre son cœur. Son imagination préoccupée du récit qu'il venait de composer était toute au pressentiment tragique. Il s'était vu saisi par des domestiques, garrotté, conduit dans une cave avec un bâillon dans la bouche. Là, un domestique le gardait à vue, et si l'honneur de la noble famille exigeait que l'aventure eût une fin tragique, il était facile de tout finir avec ces poisons qui ne laissent point de traces. Alors on disait qu'il était mort de maladie, et on le transportait mort dans sa chambre. Ému de son propre conte comme un auteur dramatique, Julien avait réellement peur lorsqu'il entra dans la salle à manger. Il regardait tous ses domestiques en grande livrée. Il étudiait leur physionomie. « Quels sont ceux qu'on a choisis pour l'expédition de cette nuit ?» se disait-il. « Dans cette famille, les souvenirs de la cour de Henri III sont si présents, si souvent rappelés, que, se croyant outragés, ils auront plus de décision que les autres personnages de leur rang. » Il regarda mademoiselle de La Mole pour lire dans ses yeux les projets de sa famille. Elle était pâle et avait tout à fait une physionomie du Moyen-Âge. Jamais il ne l'avait trouvé l'air si grand. Elle était vraiment belle et imposante. il en devint presque amoureux. « Pallida morte futura », se dit-il. Sa pâleur annonce ses grands desseins. En vain, après dîner, il affecta de se promener longtemps dans le jardin. Mademoiselle de la Mole n'y parut pas. Lui parler eût, dans ce moment, délivré son cœur d'un grand poids. Pourquoi ne pas l'avouer? Il avait peur. Comme il était résolu à agir, il s'abandonnait à ce sentiment sans vergogne. « Pourvu qu'au moment d'agir, je me trouve le courage qu'il faut, » se disait-il. « Qu'importe ce que je puis sentir en ce moment. » Il alla reconnaître la situation et le poids de l'échelle. « C'est un instrument, » se dit-il en riant, « dont il est dans mon destin de me servir, ici comme à Verrières. Quelle différence !»« Alors, » ajouta-t-il avec un soupir, « je n'étais pas obligé de me méfier de la personne pour laquelle je m'exposais. Quelle différence aussi dans le danger !» J'eusse été tué dans les jardins de Monsieur de Rênal qu'il n'y avait point de déshonneur pour moi. Facilement on eût rendu ma mort inexplicable. Ici, quels récits abominables ne va-t-on pas faire dans les salons de l'hôtel de Chaune, de l'hôtel de Quélus, de l'hôtel de Retz, etc. Partout, enfin, je serais un monstre dans la postérité. Pendant 2 ou 3 ans, reprit-il en riant et se moquant de soi. Mais cette idée l'anéantissait. Et moi, où pourra-t-on me justifier? En supposant que Fouquet imprime mon pamphlet posthume, ce ne sera qu'une infamie de plus. Quoi? Je suis reçu dans une maison, et pour prix de l'hospitalité que j'y reçois, des bontés dont on m'y accable, j'imprime un pamphlet sur ce qui s'y passe. J'attaque l'honneur des femmes. Ah, 1000 fois plutôt, soyons dupes. Cette soirée fut affreuse. Chapitre 46. 1 heure du matin. Ce jardin était fort grand, dessiné depuis peu d'années avec un goût parfait. Mais les arbres avaient plus d'un siècle. On y trouvait quelque chose de champêtre. Massinger. Il allait écrire un contre-ordre à Fouquet lorsque 11 heures sonnèrent. Il fit jouer avec bruit la serrure de la porte de sa chambre, comme s'il se fût enfermé chez lui. Il alla observer à pas de loup ce qui se passait dans toute la maison, surtout au 4e étage, habité par les domestiques. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Une des femmes de chambre de Madame de la Mole donnait soirée. Les domestiques prenaient du punch fort gaiement. « Ceux qui rient ainsi, » pensa Julien, « ne doivent pas faire partie de l'expédition nocturne. Ils seraient plus sérieux. » Enfin, il alla se placer dans un coin obscur du jardin. Si leur plan est de se cacher des domestiques de la maison, ils feront arriver par-dessus les murs du jardin les gens chargés de me surprendre. Si Monsieur de Croisenois porte quelque sang-froid dans tout ceci, il doit trouver moins compromettant pour la jeune personne qu'il veut épouser de me faire surprendre avant le moment où je serai entré dans sa chambre. Il fit une reconnaissance militaire et fort exacte. « Il s'agit de mon honneur, » pensa-t-il. « Si je tombe dans quelque bévue, ce ne sera pas une excuse à mes propres yeux de me dire « Je n'y avais pas songé. » Le temps était d'une sérénité désespérante. Vers les 11 heures, la lune se leva. À 1h30, elle éclairait en plein la façade de l'hôtel donnant sur le jardin. « Elle est folle !» se disait Julien. Comme 1 heure sonna, il y avait encore de la lumière aux fenêtres du comte Norbert. De sa vie, Julien n'avait eu autant de peur. Il ne voyait que les dangers de l'entreprise et n'avait aucun enthousiasme. Il alla prendre l'immense échelle, attendit 5 minutes pour laisser le temps à un contre-ordre et à 1h05 posa l'échelle contre la fenêtre de Mathilde. Il monta doucement, le pistolet à la main, étonné de n'être pas attaqué. Comme il approchait de la fenêtre, elle s'ouvrit sans bruit. « Vous voilà, monsieur !» lui dit Mathilde avec beaucoup d'émotion. « Je suis vos mouvements depuis 1 heure. » Julien était fort embarrassé. Il ne savait comment se conduire. Il n'avait pas d'amour du tout. Dans son embarras, il pensa qu'il fallait oser. Il essaya d'embrasser Mathilde. « Fi donc !» lui dit-elle en le repoussant. Fort content d'être éconduit, il se hâta de jeter un coup d'œil autour de lui. La lune était si brillante que les ombres qu'elle formait dans la chambre de Mademoiselle de la Mole étaient noires. « Il peut fort bien y avoir là des hommes cachés sans que je les voie, » pensa-t-il. « Qu'avez-vous dans la poche de côté de votre habit ?» lui dit Mathilde, enchantée de trouver un sujet de conversation. Elle souffrait étrangement. Tous les sentiments de retenue et de timidité, si naturels à une fille bien née, avaient repris leur empire et la mettaient au supplice. « J'ai toutes sortes d'armes et de pistolets, » répondit Julien, non moins content d'avoir quelque chose à dire. « Il faut retirer l'échelle, » dit Mathilde. « Elle est immense et peut casser les vitres du salon en bas ou de l'entresol. » « Il ne faut pas casser les vitres !» reprit Mathilde, essayant en vain de prendre le ton de la conversation ordinaire. « Vous pourriez, ce me semble, abaisser l'échelle au moyen d'une corde qu'on attacherait au premier échelon. J'ai toujours une provision de corde chez moi. » « Et c'est là une femme amoureuse ?» pensa Julien. « Elle ose dire qu'elle aime ?» Tant de sang-froid, tant de sagesse dans les précautions m'indique assez que je ne triomphe pas de Monsieur de Croisenois comme je le croyais sottement, mais que tout simplement je lui succède. Au fait, que m'importe? Est-ce que je l'aime? Je triomphe du marquis en ce sens qu'il sera très fâché d'avoir un successeur, et plus fâché encore que ce successeur soit moi. Avec quelle hauteur il me regardait hier soir au café Tortoni, en affectant de ne pas me reconnaître. Avec quel air méchant il me salua ensuite, quand il ne put plus s'en dispenser. Julien avait attaché la corde au dernier échelon de l'échelle, il la descendait doucement et en se penchant beaucoup en dehors du balcon pour faire en sorte qu'elle ne touchât pas les vitres. « Beau moment pour me tuer, » pensa-t-il, si quelqu'un est caché dans la chambre de Mathilde. Mais un silence profond continuait à régner partout. L'échelle toucha la terre, Julien parvint à la coucher dans la plate-bande de fleurs exotiques le long du mur. « Que va dire ma mère ?» dit Mathilde, « quand elle verra ces belles plantes toutes écrasées. Il faut jeter la corde, » ajouta-t-elle d'un grand sang-froid. « Si on l'apercevait remontant au balcon, « ce serait une circonstance difficile à expliquer. « Et comment, moi, m'en aller ?» dit Julien d'un ton plaisant et en affectant le langage créole. Une des femmes de chambre de la maison était née à Saint-Domingue. « Vous, vous en allez par la porte ?» dit Mathilde, ravie de cette idée. « Ah, que cet homme est digne de tout mon amour » pensa-t-elle. Julien venait de laisser tomber la corde dans le jardin. Mathilde lui serra le bras. Il crut être saisi par un ennemi et se retourna vivement en tirant un poignard. Elle avait cru entendre ouvrir une fenêtre. Ils restèrent immobiles et sans respirer. La lune les éclairait en plein. Le bruit ne se renouvelant pas, il n'y eut plus d'inquiétude. Alors, l'embarras recommença. Il était grand des deux parts. Julien s'assura que la porte était fermée avec tous ses verrous. Il pensait bien à regarder sous le lit, mais n'osait pas. On avait pu y placer un ou deux laquais. Enfin, il craignit un reproche futur de sa prudence, et regarda. Mathilde était tombée dans toutes les angoisses de la timidité la plus extrême. Elle avait horreur de sa position. « Qu'avez-vous fait de mes lettres ? » dit-elle enfin. Quelle bonne occasion de déconcerter ces messieurs s'ils sont aux écoutes et d'éviter la bataille, pensa Julien. La première est cachée dans une grosse Bible protestante que la diligence d'hier soir emporte bien loin d'ici. Il parlait fort distinctement en entrant dans ces détails et de façon à être entendu des personnes qui pouvaient être cachées dans deux grandes armoires d'acajou qu'il n'avait pas osé visiter. les deux autres sont à la poste et suivent la même route que la première. Mais, grand Dieu, pourquoi toutes ces précautions ? Dit Mathilde, étonnée. À propos de quoi est-ce que je mentirais ? Pensa Julien, et il lui avoua tous ses soupçons. Voilà donc la cause de la froideur de tes lettres ? S'écria Mathilde avec l'accent de la folie plus que de la tendresse. Julien ne remarqua pas cette nuance. Ce tutoiement lui fit perdre la tête, ou du moins ses soupçons s'évanouirent. Il osa serrer dans ses bras cette fille si belle et qui lui inspirait tant de respect. Il ne fut repoussé qu'à demi. Il eut recours à sa mémoire, comme jadis à Besançon auprès d'Amanda Binet, et récita plusieurs des plus belles phrases de la nouvelle Héloïse. « Tu as un cœur d'homme, » lui répondit-on sans trop écouter ses phrases. « J'ai voulu éprouver ta bravoure, je l'avoue. Tes premiers soupçons et ta résolution te montrent plus intrépide encore que je ne croyais. » Mathilde faisait effort pour le tutoyer. Elle était évidemment plus attentive à cette étrange façon de parler qu'au fond des choses qu'elle disait. Ce tutoiement, dépouillé du ton de la tendresse, ne faisait aucun plaisir à Julien. Il s'étonnait de l'absence du bonheur. Enfin, pour le sentir, il eut recours à sa raison. Il se voyait estimé par cette jeune fille si fière et qui n'accordait jamais de louanges sans restriction. Avec ce raisonnement, il parvint à un bonheur d'amour-propre. Ce n'était pas, il est vrai, cette volupté de l'âme qu'il avait trouvée quelquefois auprès de Madame de Rênal. Il n'y avait rien de tendre dans ses sentiments de ce premier moment. C'était le plus vif bonheur d'ambition, et Julien était surtout ambitieux. Il parla de nouveau des gens par lui soupçonnés et des précautions qu'il avait inventées. En parlant, il songeait aux moyens de profiter de sa victoire. Mathilde, encore fort embarrassée et qui avait l'air atterrée de sa démarche, parut enchantée de trouver un sujet de conversation. On parla des moyens de se revoir. Julien jouit délicieusement de l'esprit et de la bravoure dont il fit preuve de nouveau pendant cette discussion. On avait affaire à des gens très clairvoyants. Le petit Tanbeau était certainement un espion, mais Mathilde et lui n'étaient pas non plus sans adresse. Quoi de plus facile que de se rencontrer dans la bibliothèque pour convenir de tout? Je puis paraître, sans exciter de soupçons, dans toutes les parties de l'hôtel, ajoutait Julien, et presque jusque dans la chambre de Madame de la Mole. Il fallait absolument la traverser pour arriver à celle de sa fille. Si Mathilde trouvait mieux qu'il arrivât toujours par une échelle, c'était avec un cœur ivre de joie qu'il s'exposerait à ce faible danger. En l'écoutant parler, Mathilde était choquée de cet air de triomphe. « Il est donc mon maître ?» se dit-elle. Déjà, elle était en proie au remords. Sa raison avait horreur de l'insigne folie qu'elle venait de commettre. Si elle l'eût pu, elle eût anéanti elle et Julien. Quand, par instant, la force de sa volonté faisait taire les remords, des sentiments de timidité et de pudeur souffrante la rendaient fort malheureuse. Elle n'avait nullement prévu l'état affreux où elle se trouvait. « Il faut cependant que je lui parle, » se dit-elle à la fin. « Cela est dans les convenances. On parle à son amant. » Et alors, pour accomplir un devoir, et avec une tendresse qui était bien plus dans les paroles dont elle se servait que dans le son de sa voix, elle raconta les diverses résolutions qu'elle avait prises à son égard pendant ces derniers jours. Elle avait décidé que s'il osait arriver chez elle avec le secours de l'échelle du jardinier, ainsi qu'il lui était prescrit, elle serait toute à lui. Mais jamais l'on ne dit d'un ton plus froid et plus poli des choses aussi tendres. Jusque-là, ce rendez-vous était glacé. C'était à faire prendre l'amour en haine. Quelle leçon de morale pour une jeune imprudente! Vaut-il la peine de perdre son avenir pour un tel moment? Après de longues incertitudes, qui eussent pu paraître à un observateur superficiel l'effet de la haine la plus décidée, tant les sentiments qu'une femme se doit à elle-même avaient de peine à céder à une volonté aussi ferme. Mathilde finit par être pour lui une maîtresse aimable. À la vérité, ses transports étaient un peu voulus. L'amour passionné était encore plutôt un modèle qu'on imitait qu'une réalité. Mademoiselle de la Mole croyait remplir un devoir envers elle-même et envers son amant. « Le pauvre garçon, se disait-elle, a été d'une bravoure achevée, il doit être heureux, ou bien c'est moi qui manque de caractère. » Mais elle eût voulu racheter au prix d'une éternité de malheur la nécessité cruelle où elle se trouvait. Malgré la violence affreuse qu'elle se faisait, elle fut parfaitement maîtresse de ses paroles. Aucun regret, aucun reproche ne vinrent gâter cette nuit, qui sembla singulière plutôt qu'heureuse à Julien. Quelle différence, grand Dieu, avec son dernier séjour de 24 heures à Verrières! Ces belles façons de Paris ont trouvé le secret de tout gâter, même l'amour, se disait-il dans son injustice extrême. Il se livrait à ses réflexions, debout dans une des grandes armoires d'acajou, où on l'avait fait entrer au premier bruit entendu dans l'appartement voisin, qui était celui de Madame de la Mole. Mathilde suivit sa mère à la messe, les femmes quittèrent l'appartement, et Julien s'échappa avant qu'elles ne revinssent terminer leurs travaux. Il monta à cheval et chercha les endroits les plus solitaires d'une des forêts voisines de Paris. Il était bien plus étonné qu'heureux. Le bonheur qui, de temps à autre, venait occuper son âme, était comme celui d'un jeune sous-lieutenant qui, à la suite de quelque action étonnante, vient d'être nommé colonel d'emblée par le général en chef. Il se sentait porté à une immense hauteur. Tout ce qui était au-dessus de lui la veille était à ses côtés maintenant, ou bien au-dessous. Peu à peu, le bonheur de Julien augmenta à mesure qu'il s'éloignait. S'il n'y avait rien de tendre dans son âme, c'est que, quelque étrange que ce mot puisse paraître, Mathilde, dans toute sa conduite avec lui, avait accompli un devoir. Il n'y eut rien d'imprévu pour elle dans tous les événements de cette nuit, que le malheur et la honte qu'elle avait trouvés au lieu de cette entière félicité dont parlent les romans. Me serais-je trompée? N'aurais-je pas d'amour pour lui? Se dit-elle. Chapitre 47. Une vieille épée. Elle ne parut pas au dîner. Le soir, elle vint un instant au salon, mais ne regarda pas Julien. Cette conduite lui parut étrange. Mais, pensa-t-il, je ne connais pas leurs usages. Elle me donnera quelque bonne raison pour tout ceci. Toutefois, agité par la plus extrême curiosité, il étudiait l'expression des traits de Mathilde. Il ne put pas se dissimuler qu'elle avait l'air sec et méchant. Évidemment, ce n'était pas la même femme qui, la nuit précédente, avait, ou feignait, des transports de bonheur trop excessifs pour être vrais. Le lendemain, le surlendemain, même froideur de sa part, elle ne le regardait pas, elle ne s'apercevait pas de son existence. Julien, dévoré par la plus vive inquiétude, était à mille lieues des sentiments de triomphe qu'il avait seul animés le premier jour. « Serait-ce, par hasard, se dit-il, un retour à la vertu ?» Mais ce mot était bien bourgeois pour l'altière Mathilde. Dans les positions ordinaires de la vie, elle ne croit guère à la religion, pensait Julien. Elle l'aime comme très utile aux intérêts de sa caste. Mais, par simple délicatesse, ne peut-elle pas se reprocher vivement la faute qu'elle a commise? Julien croyait être son premier amant. Mais, se disait-il dans d'autres instants, il faut avouer qu'il n'y a rien de naïf, de simple, de tendre dans toute sa manière d'être. Jamais je ne l'ai vue plus altière. Me mépriserait-elle? Il serait digne d'elle de se reprocher ce qu'elle a fait pour moi, à cause seulement de la bassesse de ma naissance. Pendant que Julien, rempli de ses préjugés puisés dans les livres et dans les souvenirs de Verrières, poursuivait la chimère d'une maîtresse tendre et qui ne songe plus à sa propre existence du moment qu'elle a fait le bonheur de son amant, la vanité de Mathilde était furieuse contre lui. Comme elle ne s'ennuyait plus depuis 2 mois, elle ne craignait plus l'ennui. Ainsi, sans pouvoir s'en douter le moins du monde, Julien avait perdu son plus grand avantage. « Je me suis donné un maître !» se disait Mademoiselle de la Mole en proie au plus noir chagrin. « Il est rempli d'honneur, à la bonne heure, mais si je pousse à bout sa vanité, il se vengera en faisant connaître la nature de nos relations. » Jamais Mathilde n'avait eu d'amant, et dans cette circonstance de la vie qui donne quelques illusions tendres, même aux âmes les plus sèches, elle était en proie aux réflexions les plus amères. Il a sur moi un empire immense, puisqu'il règne par la terreur, et peut me punir d'une peine atroce si je le pousse à bout. Cette seule idée suffisait pour porter Mademoiselle de la Mole à l'outrager. Le courage était la première qualité de son caractère. Rien ne pouvait lui donner quelque agitation et la guérir d'un fond d'ennui sans cesse renaissant que l'idée qu'elle jouait accroît ou pile son existence entière. Le 3e jour, comme Mademoiselle de la Mole s'obstinait à ne pas le regarder, Julien la suivit après dîner, et évidemment malgré elle, dans la salle de billard. « Eh bien, monsieur, vous croyez donc avoir acquis des droits bien puissants sur moi ?» lui dit-elle avec une colère à peine retenue. « Puisqu'en opposition à ma volonté, bien évidemment déclarée, vous prétendez me parler. Savez-vous que personne au monde n'a jamais tant osé ?» Rien ne fut plaisant comme le dialogue de ces 2 jeunes amants. Sans s'en douter, ils étaient animés l'un contre l'autre des sentiments de la haine la plus vive. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de caractère endurant, que d'ailleurs ils avaient des habitudes de bonne compagnie, ils en furent bientôt à se déclarer nettement qu'ils se brouillaient à jamais. « Je vous jure un secret éternel, » dit Julien. « J'ajouterai même que jamais je ne vous adresserai la parole si votre réputation ne pouvait souffrir de ce changement trop marqué. » Il salua avec respect et partit. Il accomplissait, sans trop de peine, ce qu'il croyait un devoir. Il était bien loin de se croire fort amoureux de Mademoiselle de la Mole. Sans doute, il ne l'aimait pas 3 jours auparavant, quand on l'avait caché dans la grande armoire d'acajou. Mais tout changea rapidement dans son âme, du moment qu'il se vit à jamais brouillé avec elle. Sa mémoire cruelle se mit à lui retracer les moindres circonstances de cette nuit qui, dans la réalité, l'avait laissé si froid. Dans la nuit même qui suivit la déclaration de brouille éternelle, Julien faillit devenir fou en étant obligé de s'avouer qu'il aimait Mademoiselle de la Mole. Des combats affreux suivirent cette découverte. Tous ses sentiments étaient bouleversés. 2 jours après, au lieu d'être fier avec Monsieur de Croisenois, il l'aurait presque embrassé en fondant en larmes. L'habitude du malheur lui donna une lueur de bon sens. Il se décida à partir pour le Languedoc, fit sa malle et alla à la poste. Il se sentit défaillir quand, arrivé au bureau des malles-postes, on lui apprit que, par un hasard singulier, il y avait une place le lendemain dans la malle de Toulouse. Il l'arrêta et revint à l'hôtel de la Mole, annoncer son départ au marquis. Monsieur de la Mole était sorti. Plus mort que vif, Julien alla l'attendre dans la bibliothèque. Que devint-il en y trouvant Mademoiselle de la Mole? En le voyant paraître, elle prit un air de méchanceté auquel il lui fut impossible de se méprendre. Emporté par son malheur, égaré par la surprise, Julien eut la faiblesse de lui dire, du ton le plus tendre et qui venait de l'âme, « Ainsi vous ne m'aimez plus ?»« J'ai horreur de m'être livrée au premier venu, » dit Mathilde en pleurant de rage contre elle-même. Au premier venu ! S'écria Julien. Et il s'élança sur une vieille épée du Moyen-Âge qui était conservée dans la bibliothèque comme une curiosité. Sa douleur, qu'il croyait extrême au moment où il avait adressé la parole à Mademoiselle de la Mole, venait d'être centuplée par les larmes de honte qu'il lui voyait répandre. Il eût été le plus heureux des hommes de pouvoir la tuer. Au moment où il venait de tirer l'épée, avec quelque peine, de son fourreau antique, Mathilde, heureuse d'une sensation si nouvelle, s'avança fièrement vers lui. Ses larmes s'étaient taries. L'idée du marquis de la Mole, son bienfaiteur, se présenta vivement à Julien. « Je tuerai sa fille ?» se dit-il. « Quelle horreur !» Il fit un mouvement pour jeter l'épée. « Certainement, » pensa-t-il, « elle va éclater de rire à la vue de ce mouvement de mélodrame. » Il dut à cette idée le retour de tout son sang-froid. Il regarda la lame de la vieille épée, curieusement, et comme s'il y eût cherché quelques taches de rouille. Puis il la remit dans le fourreau, et avec la plus grande tranquillité, la replaça au clou de bronze doré qui la soutenait. Tout ce mouvement, fort lent sur la fin, dura bien une minute. Mademoiselle de la Mole le regardait, étonnée. « J'ai donc été sur le point d'être tuée par mon amant ?» se disait-elle. Cette idée la transportait dans les plus beaux temps du siècle de Charles IX et de Henri III. Elle était immobile devant Julien, qui venait de replacer l'épée. Elle le regardait avec des yeux où il n'y avait plus de haine. Il faut convenir qu'elle était bien séduisante en ce moment. Certainement, jamais femme n'avait moins ressemblé à une poupée parisienne. Ce mot était la grande objection de Julien contre les femmes de ce pays. « Je vais retomber dans quelque faiblesse pour lui, » pensa Mathilde. « C'est bien pour le coup qu'il se croirait monseigneur et maître, après une rechute, et au moment précis où je viens de lui parler si ferme. » Elle s'enfuit. « Mon Dieu, qu'elle est belle !» dit Julien en la voyant courir. Voilà cet être qui se précipitait dans mes bras avec tant de fureur, il n'y a pas 8 jours. Et ces instants ne reviendront jamais. Et c'est par ma faute. Et au moment d'une action si extraordinaire, si intéressante pour moi, je n'y étais pas sensible. Il faut avouer que je suis née avec un caractère bien plat et bien malheureux. Le marquis parut. Julien se hâta de lui annoncer son départ. « Pour où ? » dit Monsieur de la Mole. « Pour le Languedoc. »« Non, pas, s'il vous plaît. Vous êtes réservé à de plus hautes destinées. Si vous partez, ce sera pour le Nord. Même, en termes militaires, je vous consigne à l'hôtel. Vous m'obligerez de n'être jamais plus de 2 ou 3 heures absent. Je puis avoir besoin de vous d'un moment à l'autre. » Julien salua et se retira sans mot dire, laissant le marquis fort étonné. Il était hors d'état de parler. Il s'enferma dans sa chambre. Là, il put s'exagérer en liberté toute l'atrocité de son sort. « Ainsi, pensait-il, je ne puis pas même m'éloigner. Dieu sait combien de jours le marquis va me retenir à Paris. Grand Dieu, que vais-je devenir ? Et pas un ami que je puisse consulter. L'abbé Pirard ne me laisserait pas finir la première phrase. Le comte Altamira me proposerait de m'affilier à quelque conspiration. Et cependant, je suis fou, je le sens. Je suis fou. Qui pourra me guider? Que vais-je devenir? » Chapitre 48. Moment cruel. Et elle me l'avoue. Elle détaille jusqu'aux moindres circonstances. Son œil si beau, fixé sur le mien, peint l'amour qu'elle sentit pour un autre. Schiller. Mademoiselle de la Mole, ravie, ne songeait qu'au bonheur d'avoir été sur le point d'être tuée. Elle allait jusqu'à se dire « Il est digne d'être mon maître, puisqu'il a été sur le point de me tuer. » Combien faudrait-il fondre ensemble de beaux jeunes gens de la société pour arriver à un tel mouvement de passion ? Il faut avouer qu'il était bien joli au moment où il est monté sur la chaise pour replacer l'épée, précisément dans la position pittoresque que le tapissier décorateur lui a donnée. Après tout, je n'ai pas été si folle de l'aimer. Dans cet instant, s'il se fût présenté quelque moyen honnête de renouer, elle l'eût saisi avec plaisir. Julien, enfermé à double tour dans sa chambre, était en proie au plus violent désespoir. Dans ses idées folles, il pensait à se jeter à ses pieds. Si, au lieu de se tenir dans un lieu écarté, il eût erré au jardin et dans l'hôtel, de manière à se tenir à portée des occasions, il eût peut-être, en un seul instant, changé en bonheur le plus vif son affreux malheur. Mais l'adresse dont nous lui reprochons l'absence aurait exclu le mouvement sublime de saisir l'épée, qui, dans ce moment, le rendait si joli aux yeux de Mademoiselle de la Mole. Ce caprice, favorable à Julien, dura toute la journée. Mathilde se faisait une image charmante des courts instants pendant lesquels elle l'avait aimé. Elle les regrettait. « Au fait, se disait-elle, ma passion pour ce pauvre garçon n'a duré à ses yeux que depuis une heure après minuit, quand je l'ai vu arriver par son échelle avec tous ses pistolets dans la poche de côté de son habit, jusqu'à 8 heures du matin. C'est un quart d'heure après, en entendant la messe à Sainte-Valère, que j'ai commencé à penser qu'il allait se croire mon maître, et qu'il pourrait bien essayer de me faire obéir au nom de la terreur. » Après dîner, Mademoiselle de la Mole, loin de fuir Julien, lui parla et l'engagea en quelque sorte à le suivre au jardin. Il obéit. Cette épreuve lui manquait. Mathilde cédait, sans trop s'en douter, à l'amour qu'elle reprenait pour lui. Elle trouvait un plaisir extrême à se promener à ses côtés. C'était avec curiosité qu'elle regardait ses mains, qui, le matin, avaient saisi l'épée pour la tuer. Après une telle action, après tout ce qui s'était passé, il ne pouvait plus être question de leur ancienne conversation. Peu à peu, Mathilde se mit à lui parler, avec confidence intime, de l'état de son cœur. Elle trouvait une singulière volupté dans ce genre de conversation. Elle en vint à lui raconter les mouvements d'enthousiasme passager qu'elle avait éprouvés pour Monsieur de Croisenois, pour Monsieur de Caylus. « Quoi ? Pour Monsieur de Caylus aussi ? » s'écria Julien. Et toute l'amère jalousie d'un amant délaissé éclatait dans ce mot. Mathilde en jugea ainsi, et n'en fut point offensée. Elle continua à torturer Julien, en lui détaillant ses sentiments d'autrefois de la façon la plus pittoresque et avec l'accent de la plus intime vérité. Il voyait qu'elle peignait ce qu'elle avait sous les yeux. Il avait la douleur de remarquer qu'en parlant, elle faisait des découvertes dans son propre cœur. Le malheur de la jalousie ne peut aller plus loin. Soupçonner qu'un rival est aimé est déjà bien cruel, mais se voir avouer en détail l'amour qu'il inspire par la femme qu'on adore est sans doute le comble des douleurs. Oh, combien étaient punis en cet instant les mouvements d'orgueil qui avaient porté Julien à se préférer au Caylus, au Croisenois. Avec quel malheur intime et senti ils s'exagéraient leurs plus petits avantages. Avec quelle bonne foi ardente il se méprisait lui-même. Mathilde lui semblait adorable. Toute parole est faible pour exprimer l'excès de son admiration. En se promenant à côté d'elle, il regardait à la dérobée ses mains, ses bras, son port de reine. Il était sur le point de tomber à ses pieds, anéanti d'amour et de malheur, et en criant « Pitié !» Et cette personne, si belle, si supérieure à tout, qui une fois m'a aimé, c'est Monsieur de Caylus qu'elle aimera sans doute bientôt. Julien ne pouvait douter de la sincérité de Mademoiselle de la Mole. L'accent de la vérité était trop évident dans tout ce qu'elle disait. Pour que rien absolument ne manquât à son malheur, il y eut des moments où, à force de s'occuper des sentiments qu'elle avait éprouvés une fois pour Monsieur de Caylus, Mathilde en vint à parler de lui comme si elle l'aimait actuellement. Certainement, il y avait de l'amour dans son accent. Julien le voyait nettement. L'intérieur de sa poitrine eût été inondé de plomb fondu, qu'il eût moins souffert. Comment, arrivé à cet excès de malheur, le pauvre garçon eût-il pu deviner que c'était parce qu'elle parlait à lui que mademoiselle de la Mole trouvait tant de plaisir à repenser aux velléités d'amour qu'elle avait éprouvées jadis pour M. de Caylus ou M. de Luz? Rien ne saurait exprimer les angoisses de Julien. Il écoutait les confidences détaillées de l'amour éprouvé pour d'autres dans cette même allée de tilleuls où, si peu de jours auparavant, il attendait qu'une heure sonnât pour pénétrer dans sa chambre. Un être humain ne peut soutenir le malheur à un plus haut degré. Ce genre d'intimité cruelle dura 8 grands jours. Mathilde tantôt semblait recherchée, tantôt ne fuyait pas les occasions de lui parler. Et le sujet de conversation, auquel ils semblaient tous deux revenir avec une sorte de volupté cruelle, c'était le récit des sentiments qu'elle avait éprouvés pour d'autres. Elle lui racontait les lettres qu'elle avait écrites, elle lui en rappelait jusqu'aux paroles, elle lui récitait des phrases entières. Les derniers jours, elle semblait contempler Julien avec une sorte de joie maligne. Ses douleurs étaient une vive jouissance pour elle. On voit que Julien n'avait aucune expérience de la vie. Il n'avait pas même lu de roman. S'il eût été un peu moins gauche et qu'il eût dit avec quelque sang-froid à cette jeune fille, par lui si adorée et qui lui faisait des confidences si étranges, « Convenez que quoique je ne vaille pas tous ces messieurs, c'est pourtant moi que vous aimez. » Peut-être eût-elle été heureuse d'être devinée. Du moins, le succès eût-il dépendu entièrement de la grâce avec laquelle Julien eût exprimé cette idée, et du moment qu'il l'eût choisi. Dans tous les cas, il sortait bien, et avec avantage pour lui, d'une situation qui allait devenir monotone aux yeux de Mathilde. « Et vous ne m'aimez plus, moi qui vous adore ?» lui dit un jour Julien, éperdu d'amour et de malheur. Cette sottise était à peu près la plus grande qu'il pût commettre. Ce mot détruisit en un clin d'œil tout le plaisir que mademoiselle de la Mole trouvait à lui parler de l'état de son cœur. Elle commençait à s'étonner qu'après ce qui s'était passé, il ne s'offensât pas de ses récits. Elle allait jusqu'à s'imaginer, au moment où il lui tint ce sot propos, que peut-être il ne l'aimait plus. « La fierté a sans doute éteint son amour, » se disait-elle. « Il n'est pas homme à se voir impunément préférer des êtres comme Caylus, Deluz, Croisenois, qui l'avoue lui être tellement supérieur. Non, je ne le verrai plus à mes pieds. » Les jours précédents, dans la naïveté de son malheur, Julien lui faisait un éloge passionné des brillantes qualités de ces messieurs. Il allait jusqu'à les exagérer. Cette nuance n'avait point échappé à mademoiselle de la Mole. Elle en était étonnée, mais n'en devinait pas la cause. L'âme frénétique de Julien, en louant un rival qu'il croyait aimé, sympathisait avec son bonheur. Son mot si franc, mais si stupide, vint tout changer en un instant. Mathilde, sûre d'être aimée, le méprisa parfaitement. Elle se promenait avec lui au moment de ce propos maladroit. Elle le quitta, et son dernier regard exprimait le plus affreux mépris. Rentrée au salon, de toute la soirée elle ne le regarda plus. Le lendemain, ce mépris occupait tout son cœur. Il n'était plus question du mouvement qui, pendant 8 jours, lui avait fait trouver tant de plaisir à traiter Julien comme l'ami le plus intime. Sa vue lui était désagréable. La sensation de Mathilde alla jusqu'au dégoût. Rien ne saurait exprimer l'excès du mépris qu'elle éprouvait en le rencontrant sous ses yeux. Julien n'avait rien compris à tout ce qui s'était passé depuis 8 jours dans le cœur de Mathilde. Mais il discerna le mépris. il eut le bon sens de ne paraître devant elle que le plus rarement possible, et jamais ne la regarda. Mais ce ne fut pas sans une peine mortelle qu'il se priva, en quelque sorte, de sa présence. Il crut sentir que son malheur s'en augmentait encore. Le courage d'un cœur d'homme ne peut aller plus loin, se disait-il. Il passait sa vie à une petite fenêtre dans les combles de l'hôtel. La persienne en était fermée avec soin, et de là, du moins, il pouvait apercevoir Mademoiselle de la Mole quand elle paraissait au jardin. Que devenait-il quand, après dîner, il la voyait se promener avec M. de Caylus, M. de Luz, ou tel autre pour qui elle lui avait avoué quelques velléités d'amour autrefois éprouvées? Julien n'avait pas l'idée d'une telle intensité de malheur. Il était sur le point de jeter des cris. Cette âme si ferme était enfin bouleversée de fond en comble. Toute pensée étrangère à Mademoiselle de la Mole lui était devenue odieuse. Il était incapable d'écrire les lettres les plus simples. « Vous êtes fou !» lui dit le marquis. Julien, tremblant d'être deviné, parla de maladie et parvint à se faire croire. Heureusement pour lui, le marquis le plaisanta à dîner sur son prochain voyage. Mathilde comprit qu'il pouvait être fort long. Il y avait déjà plusieurs jours que Julien la fuyait, et les jeunes gens si brillants qui avaient tout ce qui manquait à cet être si pâle, si sombre, autrefois aimé d'elle, n'avaient plus le pouvoir de la tirer de sa rêverie. Une fille ordinaire, se disait-elle, eût cherché l'homme qu'elle préfère parmi ces jeunes gens qui attirent tous les regards dans un salon. Mais un des caractères du génie est de ne pas traîner sa pensée dans l'ornière tracée par le vulgaire. Compagne d'un homme tel que Julien, auquel il ne manque que de la fortune que j'ai, j'exciterai continuellement l'attention. Je ne passerai point inaperçu dans la vie. Bien loin de redouter sans cesse une révolution comme mes cousines, qui, de peur du peuple, n'osent pas gronder un postillon qui les mène mal, je serai sûre de jouer un rôle, et un grand rôle, car l'homme que j'ai choisi a du caractère et une ambition sans bornes. Que lui manque-t-il? Des amis? De l'argent? Je lui en donne. Mais sa pensée traitait un peu Julien en être inférieur, dont on se fait aimer quand on veut.